y compris sur la question du renouvellement des juges. L'administration Obama est allée jusqu'à s'opposer au renouvellement du mandat d'une juge, tenez-vous bien, américaine. Bon, donc toutes les objections étaient faites. La plupart, la quasi-totalité des objections que font les Américains sur la Chine, les Européens les partagent. Mais ce qu'il y a d'aberrant chez Trump, au-delà du discours, de la rhétorique totalement inutile, c'est le fait qu'il se prive d'alliés. Et c'est ce que lui disent les Européens tous les jours. Mais face à la Chine, nous avons des intérêts conjoints. Nous partageons vos griefs. Mais pourquoi ne faites-vous pas alliance avec nous? Et pourquoi nous considérez-vous comme des ennemis? C'est ça le vrai changement. Le changement avec Trump, c'est qu'il considère les alliés comme un fardeau pour les États-Unis. Et le deuxième point, je termine là-dessus, le point fondamental, si vous voulez, c'est que pour la première fois depuis 1945, la première puissance du monde cherche à sortir du jeu mondial. Mais là, j'ai une interprétation.
Vous avez une hypothèse ?
Oui, bien sûr, c'est celle que je développe dans mon article.
Pour ceux qui n'ont pas lu
Oui, partie, non, mais bien sûr, qui consiste à dire, si vous voulez, que dans un jeu social, quel qu'il soit, les puissances dominantes ont deux options. Soit elles ont la coercition pour dire aux gens, vous restez dans le jeu, soit elles ont des, comment dirais-je, ou leur donner des avantages supplémentaires. Trump arrive et dit, des avantages supplémentaires, certainement pas, ils en ont déjà trop. Bon. La coercition, il peut en utiliser, mais dans le système multilatéral, elles sont encadrées. Donc je ne peux utiliser ni la coercition, ni la gratification.
Donc je sors du jeu. Voilà. Faites-nous écouter une Européenne.
Angela Merkel, après Emmanuel Macron, à Paris, donc, dans ce forum pour la paix mondiale, a prononcé le mot qui pourrait le désigner l'ennemi pour M. Macron. C'était le nationalisme. Pour Mme Merkel, écoutez, c'est l'unilatéralisme, version originale.
La Première Guerre mondiale montre à quel point l'isolationnisme conduit à de nombreuses destructions. Et si l'isolationnisme n'était pas la bonne solution il y a plus de 100 ans, comment pourrait-il tout simplement être le bon choix aujourd'hui?
Est-ce que nous sommes, Adrien Dezin, menacés d'isolationnisme?
Vous voulez dire que les Américains ne sont pas assez investis
J'écoute Mme Merkel, elle dit que l'isolationnisme nous a conduit aux catastrophes mondiales, non pas les jeux d'alliance de la France ou d'Allemagne, mais l'isolationnisme.
Moi je pense qu'il y a un gros contresens sur Trump, qui est maintenant, ça dure 2 ans, c'est de dire que Trump est un isolationniste. Ce n'est pas un isolationniste, c'est un nationaliste. Mmh. Et donc, il veut que l'Amérique soit la plus forte en premier, soit l'Amérique d'abord.
America first.
La America great again. Et quand Emmanuel Macron a dit « Bon, bah, les États-Unis s'en vont, nous allons faire l'armée européenne », tout de suite, Donald Trump est intervenu pour dire « Pas question, qu'est-ce que c'est que ça ?» Continuer d'être dans l'OTAN, d'acheter nos matériels, et il est hors de question que nos bases en Allemagne et ailleurs soient retirées.
Donc l'analyse de Macron n'est pas
Emmanuel Macron, d'ailleurs, a tout de suite dit « Oui, non, mais il y a confusion, il n'était pas question de s'opposer aux États-Unis. Nous restons bien sûr dans l'OTAN et cette armée européenne sera dans l'OTAN, rassurez-vous. Nous restons sous notre parapluie américain. » Les Allemands, comme Mme Merkel, sont un petit peu désemparés parce que pour elle, il n'est pas question d'avoir une armée européenne. Il faut l'armée américaine, qui est là depuis 1945, et la peur que son pays, et je peux le comprendre, retrouve des élans un peu guerriers et une position hégémonique en Europe. Et moi aussi, ça m'inquiète. Donc je préfère que l'armée française reste supérieure à l'armée allemande.
Elvire Fabry.
Je pense qu'en effet, bon là on rentre dans une logique complètement unilatérale de réaffirmation de puissance, mais encore une fois, qui est complètement dans le rapport de force. Et on a le sentiment que là, avec un Trump, il ne s'embarrasse pas d'alliés. Et en revanche, il est en train d'amorcer une logique de soumission. Ou vous êtes avec nous, ou vous êtes contre nous. Ça, évidemment, pour essayer de contrer la puissance chinoise. Et que dans ce jeu de rapport de force, on risque de rentrer dans des logiques de chantage et de soumission. Des pays qui sont avec le dollar et la défense américaine.
Il est plus fort face à face que face à une assemblée. Donc il préfère le bilatéralisme.
Est-ce que ce n'est pas ça, Zaki Laïdi, qui nous ramène à l'avant-première guerre mondiale, quand il y avait des blocs d'alliances, la France avec la Russie et l'Angleterre, l'Allemagne avec l'Autriche-Hongrie, et qu'il y avait des logiques de pôles très forts qui s'affrontaient?
Justement, Trump, c'est la négation de ça. Il n'est pas du tout intéressé par des alliances, puisque les premiers qui a frappé sont ses alliés sur le plan commercial. Donc c'est ça l'aberration, d'une certaine manière.
Il change d'allié.
Pardon ?
Il change
d'allié. Mais quels sont les alliés ? Il n'en veut pas, ça ne l'intéresse pas. Il veut des partenaires qui soient dans une position d'infériorité, avec effectivement ce chantage à la sécurité en Europe, dont personnellement je ne crois pas, parce que souvent on dit les Américains vont se retirer d'Europe. Mais si les Américains se retirent d'Europe, ils perdent leur statut de grande puissance mondiale. Donc, si vous voulez, contrairement à tout ce que on dit, bien évidemment, ça, on aurait intérêt à nous renforcer, à renforcer notre autonomie stratégique, mais ce n'est pas du tout simple pour les Américains. Si les Américains se retirent d'Europe, on l'a déjà bien vu au moment de la Crimée, il a suffi qu'Obama dise « je n'interviendrai pas » alors qu'il a dit qu'il interviendrait.
Au moment de l'annexion de la Crimée.
Qu'ils ont immédiatement compris que c'était un signe de faiblesse et qu'ils sont intervenus en Crimée. L'erreur inverse avait été commise par Saddam Hussein, qui était convaincu que jamais les Américains sont intervenus. Manque de bol, ils sont intervenus.
Élise Fabry, est-ce qu'on peut penser réinventer du dialogue, du multilatéralisme, ou est-ce qu'au fond, l'Europe, comme tout le monde, doit affirmer sa propre puissance? Et c'est peut-être ce qu'elle fait à Paris entre M. Macron et Mme Merkel.
Là, l'Europe a franchement intérêt, en tout cas, à assurer ce leadership de défense sur le multilatéralisme. Parce qu'on voit bien qu'entre la puissance américaine et la puissance chinoise... Non, plus que symbolique. C'est-à-dire, plus que symbolique, là, on a véritablement des valeurs, des règles du jeu à vouloir promouvoir et puis à mobiliser autour... Parce que ce sont, d'un côté, on accorde évidemment beaucoup d'importance à Trump qui est en train de torpiller ce multilatéralisme et à la Chine, mais c'est aussi dans l'intérêt de tout le reste du monde qui est beaucoup plus, qui est encore plus vulnérable même que l'Union européenne face à cette offensive unilatérale et de préserver une logique multilatérale de coopération, comme vous le disiez. On se concentre sur la paix parce que c'est l'enjeu ultime, mais encore une fois, il y a beaucoup de domaines dans lesquels les dégâts peuvent être très importants.
Écologie.
Dans plein de domaines, parce que l'interdépendance actuelle fait que l'on a besoin de ce travail de coopération.
Merci.